Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain, produite par l'Institut de pastoral des Dominicains pour Radio Ville-Marie. C'est Francine Robert au microphone et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Louis Lesage qui nous parlera des grands médias d'information d'un point de vue général et aussi de la place de la religion dans ces grands médias. Vous conviendrez comme moi une place qui ne nous enchante pas toujours. Il nous parlera aussi des médias religieux. Ce sont des sujets complexes que Louis Lesage connaît bien par expérience. En effet, il a été près de 30 ans journaliste, recherchiste et réalisateur à plusieurs émissions d'information de la Société Radio-Canada, dont Le Téléjournal, Le Point, Second Regard, et à ce titre, il a une expérience vraiment de l'intérieur. Il connaît aussi très bien les médias religieux, puisqu'il a été le premier directeur du magazine chrétien Présence et il est encore président du conseil d'administration de ce magazine. C'est dire que M. Louis Lesage connaît bien les domaines dont il nous parlera et il nous fera profiter de ses compétences et de son expérience. Louis Lesage, bonjour et bienvenue à cette émission, Louis.
Alors, bonjour Francine, ça fait plaisir d'être avec vous dans ce studio de la Côte-Sainte-Catherine.
Oui. Louis, bon, j'ai dit, vous avez été journaliste, recherchiste, réalisateur. Ce métier-là, vous l'avez pratiqué aussi en tant que croyant, quelqu'un que l'Évangile inspire, je dirais.
Vous posez des questions assez directes, vous, là, là? Oui.
Vous vous êtes compromis beaucoup dans le magazine Présence, le magazine chrétien que vous avez vous-même fondé, d'ailleurs. Il me semble que ça éclaire la raison pour laquelle vous vous intéressez, entre autres, à la pensée pastorale sur les médias. Là, se rencontrent le croyant et le journaliste de métier, je dirais.
Ben, en fait, je vais vous placer ça dans le contexte. C'est-à-dire, quand j'ai exercé ce métier de journaliste ou de réalisateur, je n'ai jamais pensé introduire ou inclure une perspective pastorale dans la pratique de ce métier-là. Je l'ai surtout fait à Radio-Canada, finalement, plus de 25 ans. Radio, télévision, affaires publiques, etc., etc. Mais c'est à partir du moment où on m'a invité à l'Institut pastoral à donner un cours, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, voilà, je vais réfléchir un peu sur les relations entre les médias, comme vous l'avez dit, médias, société, église, à l'Institut pastoral. Là, je me suis dit, il faut peut-être donner une perspective pastorale à ce cours, à cette démarche. Et puis, je me rappelais quand même que le Concile Vatican II a été défini comme un concile très pastoral. Et là, m'est venue la curiosité d'aller voir un petit peu, d'aller revoir certains documents du Concile Vatican II. Et là, j'ai été très, très étonné parce que j'ai relu Gaudium et Spes. Et là, vous allez me permettre de citer, c'est la seule citation que je vais faire, en tout cas directement dans ce temps que nous allons passer ensemble. Mais voilà. Et là, je cite les quatre premières lignes que vous connaissez sûrement par cœur. « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » Et je répète, la communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Oui. De quelle façon vous pensez, vous, aujourd'hui, que l'on peut plus se reconnaître comme étant réellement solidaire du genre humain et de son histoire? Il me semble qu'aujourd'hui, ce qui peut nous rapprocher véritablement du genre humain, ce qui peut nous le faire comprendre, ce qui peut nous le faire connaître, c'est quoi? Ce sont les médias. Mm-hmm. Alors pour moi, au fond, avoir une perspective pastorale sur les médias, c'est tout simplement comprendre que, et dans l'esprit du Concile Vatican II, et dans l'esprit du texte que je viens de lire, au fond, l'attitude pastorale, elle définit une relation entre l'Église et le monde et la société, et elle définit essentiellement, d'abord, je pense, une relation d'écoute, une relation d'attention, une relation de compréhension. Et c'est dans ce sens-là que je parle d'attitude pastorale, c'est-à-dire d'attitude bien sûr définie par mon christianisme dans le sens que pour moi, la première conviction profonde que j'ai de l'Évangile, c'est d'être à l'écoute, attentif aux autres. Donc, quand on parle de médias, c'est de développer soi-même une attitude d'ouverture profonde face aux médias, parce que ce sont les médias, qu'il faut bien le dire, qui nous renseignent, oui. Qui nous renseignent sur le monde près de chez nous, sur ce qui se passe ici, sur ce qui se passe ailleurs, et qui nous renseignent continuellement, peut-être parfois pas tout à fait comme on le souhaiterait, mais qui sont toujours présents là.
Oui, qui apportent jusque dans notre salon les souffrances, les événements tragiques, et donc qui nous rendent oui, plus proches de ceux dont on n'entendrait jamais parler autrement.
Et de la condition humaine, oui. Globalement, même si ce n'est pas véritablement tragique, des enjeux, des défis, au fond, de tout ce qui est de la marche du monde, en fait. En continuant un peu cette lecture du texte Gaudium et Spes, j'ai vu d'ailleurs aussi que l'Église elle-même dit que c'est très, très important d'être très attentif aux signes des temps. Mm-hmm. Et elle donne même dans d'autres textes, et c'est pour ça que je me suis intéressé un peu pour fonder ma propre démarche, c'est que même dans l'Église, on voit que, et là je peux même vous citer, l'Église considère les instruments de moyens de communication, les médias, non seulement comme des produits du genre humain, mais également comme d'immenses dons de Dieu et de véritables signes des temps. Alors, voyez-vous, alors quand je parle de médias ou d'approche des médias dans une perspective pastorale, c'est essentiellement dans une perspective ouverte. Je pense que tous les documents d'Église n'ont pas ce même souffle, mais je pense que Gaudium et Spes a un véritable souffle et saisit bien que l'attitude première que nous devons avoir face au monde, face à la culture, face à la société, face à la politique, face aux problèmes sociaux, face à l'art, face aux plus démunis, c'est essentiellement une attitude d'ouverture qui nous donne la motivation à la fois de connaître et de comprendre ce qui se passe dans l'humanité. Ceci est très général, c'est vrai, mais je pense que quand on parle de conviction chrétienne, il faut aller chercher un peu dans le fond de soi et aussi dans le fond du sens de l'activité que l'on mène comme chrétien, si vous voulez.
Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que la première chose sur laquelle vous insistez, c'est en quoi ça me concerne, moi, comme lecteur. Ça rejoint une question que vous posiez dans une de vos chroniques que j'ai lues et qui m'a interpellée. J'ai des opinions sur les médias, sur la télé. J'ai peut-être la critique facile. Et je me retrouvais avec une question comme, ben moi, en tant que chrétien, quand j'ouvre mon journal, quand j'allume la télé ou que je cherche les grands journaux sur mon ordi, comment je me positionne, moi, comme chrétienne? Et je me suis dit, misère, j'avais plein de questions à propos des médias. Ça, c'est une question à propos de moi. Vous commencez sous cet angle-là, finalement, en disant, l'Église, si elle a une position sur les médias, c'est une position qui interpelle d'abord les chrétiens ou les catholiques.
Ben moi, je trouve que j'ai découvert ça même en lisant les textes. C'est qu'au fond, moi, j'en parle à travers Gaudium et Spes, un document conciliaire qu'on a appelé Schéma 13. Moi, j'ai pas beaucoup d'a priori sur ça. Hein. Vous savez, je suis pas un ecclésiologue ni un théologien. J'ai fait une carrière comme journaliste, ma formation en droit, en philosophie, tout ça. Mais là, je me suis mis à regarder ces textes et je me suis aperçu qu'au fond, ce texte de Gaudium et Spes est particulièrement en ce qui concerne cette approche large, générale, et même dans ce qu'il dit des médias, très inspirant, beaucoup de souffle. Mais effectivement, il y a spécifiquement un texte qui porte sur les médias.
Ah bon?
Ça s'appelle Interm, je vous apprends ça, oui. Je suis content. Il y a un texte qui porte spécifiquement sur les médias. Et Interm est efficace, j'imagine, parmi les merveilles qui existent dans la technologie et les médias. Mais je crois justement que dans ce texte-là, on retrouve un peu plus une optique justement du magistère, c'est-à-dire de voir les médias. Et ça, je pense qu'ils ont peut-être un rôle à ça, au sens pastoral et un peu plus étroit, c'est-à-dire ben, d'utiliser les médias pour prêcher, pour communiquer la doctrine de l'Église, etc., etc. Évidemment, c'est un rôle, ça aussi, qui n'est pas à négliger, puis qui ne l'est pas dans l'Église, parce que Radio Vatican, à l'échelle internationale, l'Observatore Romano, dans les diocèses, enfin, on pourra même y revenir quand on parlera d'information religieuse. Cette dimension-là, elle existe. Mais moi, personnellement, quand je parle d'attitude pastorale, je pense que c'est profondément de retrouver l'esprit qu'il y avait dans un texte comme Gaudium et Spes, quand on se montre très sympathique et très ouvert à ce qu'est l'humanité, à ce qu'elle a proposé, et à ses richesses, et à ses drames, à ses espoirs et à ses douleurs.
Oui, et donc, à la fois, une interpellation au lecteur, ce que je soulignais tantôt, mais aussi une interpellation aux médias eux-mêmes, non? À témoigner de ce que les gens
C'est-à-dire
vivent.
Que je pense que quand on est journaliste, qu'on dit des choses comme ça, et particulièrement peut-être quand on est journaliste chrétien, je pense que ces textes-là, je les avais déjà lus en cours de route, et j'avais trouvé des choses. Ça donne un certain souffle. Par ailleurs, faut dire aussi que l'Église a continué quand même, parce qu'après le Concile, il y a eu une réflexion régulière qui s'est faite depuis 45 ans. Chaque année, vous savez, le pape signe un message publié par le Conseil pontifical des communications, un message qui concerne les médias actuellement. Comme par exemple, les deux derniers messages, le 45e, le 44e, sont très, très ouverts. On parle beaucoup d'Internet, de Facebook, et d'une approche aussi très, très positive, en insistant, évidemment, là, on est moins dans la dimension média, au sens les grands médias, médias d'information, mais au sens où on observe beaucoup que ce sont des magnifiques instruments de communication, puis de communion, puis on est très, très ouvert à ça, tout en soulignant, bien sûr, comme il se doit, comme l'Église le fait tout le temps, les dérapages et les déviations possibles, mais on est quand même à la pointe. Il y a quelques années, et cette année, l'année passée, carrément, on s'en va et on dit au fond aux gens d'utiliser au maximum l'Internet.
D'accord.
Mais peut-être pour réaliser, pas uniquement pour communiquer la pensée du magistère, mais pour échanger, parce que c'est une manière de réaliser la communication.
Je ne savais pas qu'il y avait, donc vous dites, un texte à chaque année sur les médias. Est-ce que dans ces textes-là, il y a aussi une interpellation lancée aux médias eux-mêmes?
Oui, il y en a beaucoup. Oui, des médias. Oui. Il y en a 45, mais il y a aussi, il y a très souvent en ce qui concerne l'information, bien sûr, très souvent des appels à observer, avec raison d'ailleurs, à observer une éthique, d'ailleurs Dieu sait qu'on en a besoin, une éthique journalistique assez forte, avec critères sur la recherche de l'intérêt public, le bien commun, la vérité, etc., etc. Et puis aussi, il y a d'autres réflexions que l'Église a faites sur les médias dans un contexte plus politique, c'est-à-dire que médias et démocratie. Très souvent, on va souligner dans des textes d'enseignement social de l'Église que les médias, que la liberté d'information, la liberté de presse est fondamentale à la démocratie.
Oui, je crois que c'est dans un de vos textes encore, j'ai vu... Oui. C'est Pacem in Terris, où vous disiez que Jean XXIII rappelait avec insistance le droit à la liberté de presse, le droit à l'information.
Oui. Pacem in Terris, je le cite, savez-vous, c'est dans un traité de droit de l'information, de droit des médias. Donc, il n'y avait rien à voir avec Pacem in Terris, que j'ai lu que dans les premiers textes importants de pensée universelle, en tout cas sérieux, que l'allusion ou enfin la référence au droit à l'information, c'était dans Pacem in Terris. Est-ce que ça a été ailleurs? Peut-être, mais c'est trop. Mais enfin, c'est dans le droit comme tel, la formulation du droit à l'information. On reconnaissait dans ce traité de droit, d'ailleurs, par un professeur de droit de l'Université de Montréal qui s'appelle Pierre Trudel, qui est encore là maintenant.
Oui.
Mais c'est là que j'ai appris ça.
C'est sympathique parce que spontanément, on pose ça un peu en antagonisme, l'Église et les grands médias. On aura l'occasion d'y revenir.
Il y a de bien questions.
Parce qu'il y a des petits...
On peut y revenir, mais c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que l'Église elle-même, dans ses institutions, dans son fonctionnement, dans sa pratique, est ouverte à cette pratique d'information qu'elle souhaite libre de circuler dans la société et dans la démocratie? Ça, c'est une autre question que l'on
Louis,
on répondra pas aujourd'hui.
Vous me la posez, mais moi, je vais vous la poser.
Non, on
ne
répondra pas ça aujourd'hui.
Après,
c'est trop vaste, trop général.
Louis Lesage, depuis tout à l'heure, on parle des grands médias et la pensée de l'Église là-dessus. C'est quoi les grands médias là, dans votre esprit?
Mais moi, les grands médias dans mon esprit, là, disons, pour le moment, là, je place tout ce qui est sur Internet ou petits journaux ou petites stations de radio comme médias qui ont du sens. Ils ont, comme on dit dans le métier parfois, ce sont des niches importantes qui rejoignent des publics ciblés. Mais moi, quand je parle des grands médias, disons concrètement au Québec, là, je parlerais de Radio-Canada, de la presse, de TVA ou disons des grands quotidiens à Montréal, incluant le Devoir, la Gazette, la presse et puis il m'en manque un, là, le Journal de Montréal. Donc, les grands médias, c'est et radio et télévision, ceux qui occupent l'avant de la scène. Et ce sont eux qui, non seulement à Montréal, mais à Québec et à travers le monde, ou le New York Times, The Guardian, Le Monde, ce sont ces médias-là quand même qui, malgré tout, définissent l'agenda mondial ou l'agenda local.
Et définissent. Je vous interromps, mais oui, donc pas juste reflète, définissent.
Définissent,
oui. C'est un mot fort, hein?
Ben, c'est-à-dire, par exemple, et, je sais pas moi, depuis plusieurs mois au Québec, on parle régulièrement des scandales dans le milieu de la construction. On parle de la collusion entre les milieux de la construction, les milieux d'ingénieurs, et même, je pense récemment, la collusion même avec peut-être certains fonctionnaires, ou enfin, bon, mais on en parle, d'abord, donc ça existe. Ça dit que ça existe. On les met à nu, on les sort, on en parle, on fait des enquêtes qui sont rigoureuses.
C'est grâce aux médias qu'on en parle.
Donc, dans ce sens-là, ce que je veux dire, c'est que ça existait, ils ne l'ont pas inventé, mais ils l'ont mis à nu, ils l'ont découvert, ils l'ont mis sur la place publique, et c'est actuellement un enjeu majeur, particulièrement au Québec, les problèmes entourant la corruption at large dans le domaine de la construction. Dans ce sens-là, les médias définissent les conversations, définissent l'humeur du temps, et les grands médias qui sont à l'origine de ça, Radio-Canada, ils apparaissent particulièrement dans ces dossiers-là, mais ça fait, c'est sûr, après ça, toute la machine part, ça devient sur les blogs, sur Internet, sur Facebook, sur les petits médias, puis tout le monde en parle, mais en partant, ce sont les décisions éditoriales, des décisions d'ailleurs qui, pour les médias, demandent des moyens, demandent des gros moyens. Parfois, il y a des enquêtes de plusieurs mois qui sont faites, on ne voit pas ça, c'est des choses coûteuses.
C'est
dans ce sens-là
souvent,
que les grands médias, ils ont les moyens de faire ça.
Oui.
Et c'est dans ce sens-là qu'ils font l'agenda, c'est-à-dire qu'ils font l'agenda politique et qu'ils mettent sur la place publique des questions, des problèmes, des choses à régler. Ça, c'est un domaine, c'est évident, mais dans plusieurs domaines, c'est comme ça.
Oui.
Évidemment, il peut arriver que les médias ne s'intéresse pas du tout à certaines choses que vous allez considérer comme importantes, comme par exemple la marche, la fonction, ce que fait l'Église, disons par exemple. Mais ça, c'est un autre problème. Et ensuite, aussi, on peut voir que si on regarde depuis un certain temps ce qui nous a intéressé dans l'actualité, l'affaire DSK, par exemple, prenons-le à une échelle locale, le procès du docteur Guy Turcotte.
Oui.
Bon, l'événement, il est arrivé, il s'est produit. Mais c'est sûr qu'il y a eu une couverture, on va dire, médiatique très forte. C'est sûr qu'il y avait matière à aller chercher un peu l'intérêt de tous les publics, même jusqu'à un certain point. Mais c'est sûr qu'ils jouent ça, mais en même temps, ils informent. En même temps, ils peuvent aller assez loin également dans les analyses. Le procès a été suivi assez rigoureusement, très sérieusement par les journalistes. Il n'y a pas eu beaucoup de sensationnalisme là-dessus. Ça veut dire que c'était sensationnel en soi. Parce que les grands médias, ce sont quand même eux qui ont des équipes de journalistes. Je pense à la presse, je voyais en fin de semaine dernière, il y a 225 journalistes à différents niveaux, différents échelons, j'imagine à la fois Internet. Et eux aussi, un journal comme la presse, ils vont aussi sur plusieurs, ils ont plusieurs sites Internet, plusieurs blogs, plusieurs, en fait, ils sont partout, un peu comme les grands médias de toute façon en général. Et c'est dans ce sens-là qu'ils définissent véritablement, ils définissent au fond l'agenda, non seulement l'agenda politique, mais souvent les conversations des gens, tout le monde va parler de ça à travers le Québec, puis là, on se fait nos idées sur Charest, et on se fait nos idées sur ci, on se fait nos idées sur ça, mais s'il n'y avait pas eu ça en partant, un travail, ça je vous fais remarquer, en partant, un travail d'intérêt public fondamental,
c'est ça.
Un travail où les gens recherchent la vérité, un travail où les gens, oui, il y a aussi des qualités dans les médias, un travail où on veut améliorer la société, non mais c'est vrai, on veut améliorer la société, on travaille, les médias mettent de l'argent sur ça, et dans ce sens-là, qu'ils jouent un rôle fondamental, et ce ne sont qu'eux qui peuvent faire ça. C'est sûr que tout le monde peut échanger. C'est, ah, ben, moi, là, je trouve que M. Charest, il avait quitté tatati tatata, ou je trouve que ce qui se passe dans le PQ, patati patata, là, on peut en mettre, là. Mettez-en des blocs, des opinions. Mais s'il n'y a pas de substance, s'il n'y a pas de gens qui, quelque part, comprennent qu'il y a certaines choses qu'il faut véritablement bien savoir et d'autres pas. Et ça, je parle de la construction, mais ça peut être comme ça dans plusieurs domaines. Je regarde actuellement dans un journal d'ici, la presse, pour ne pas le nommer, qui sont en train de faire un reportage sur les conditions des personnes âgées ou aînées dans différents pays. Il y avait un reportage récemment sur le Danemark. Mais savez-vous, faut le faire, ça. Faut décider que c'est important. Mais là, après ça, les gens peuvent commencer à chialer, patati patata, mais faut, et c'est dans ce sens-là que le rôle, souvent les gens ne le voient pas ou ne le saisissent pas assez, que c'est ça fondamentalement.
Ouais.
C'est sûr qu'il peut y avoir des dérapages, c'est sûr qu'on pourra en parler tout à l'heure, je pourrais donner un exemple tout à l'heure de quelque chose d'autre quand on parlera de religion médiale, mais c'est dans ce sens-là que je parle des grands médias. On pense souvent, oh, mais maintenant, il y a Internet, on peut aller chercher de l'information. D'ailleurs, quand on va chercher de l'information sur Internet, si on veut avoir de la bonne information, à quelle place on va la chercher? On va la chercher
sur les sites des grands médias.
On va la chercher sur les sites des grands médias. Peut-être, est-ce que le format papier va durer ou pas? Bon, il y a un ou deux journaux dans le monde qui maintenant sont uniquement sur Internet, dont tantôt le Christian Science Monitor. Mais la plupart des journaux, comme je regarde même ici au Canada, je pense qu'ils sont encore il y a un format papier, puis encore pour quelques années. Je sais pas si je voyais le Globe and Mail, par exemple, qui est probablement le meilleur journal au Canada, qui récemment, disons, refaisait sa première page, très glacée, tout ça, puis ils investissent beaucoup. J'ai l'impression que ça, c'est un autre problème. Mais pour le moment, ils sont là. Format papier, ils vont durer encore pour un certain temps. C'est sûr que les observateurs remarquent des déplacements, là, des déplacements au niveau des chiffres publicitaires, un peu moins de publicité dans les médias, écrit un peu moins à la télé, un peu plus sur Internet, mais ça, c'est quelques pourcents par année. Est-ce que cette tendance-là va diminuer? Ça, c'est une autre question. Mais pour le moment, les grands médias, papier ou pas, ont un rôle, à mon avis, très important. C'est dans ce sens-là que oui. Je dis qu'ils reflètent, mais ils construisent. Puis ils font évoluer parce qu'ils font réagir. Ils sont en interaction, interface
oui,
de la société.
Oui, c'est bien ce que vous me faites réaliser. On a l'impression qu'ils se contentent de refléter, parfois à gros coups de haut-parleur. Mais en fait, vous me rappelez le journalisme d'enquête.
Les gens vont dire, le journalisme d'enquête, mais oui, mais à part ça, il ne se fait pas grand-chose. Mais c'est ce qui se fait est quand même important. Oui. Puis aussi, la couverture politique en général est critique. Enfin, il y a quand même, il joue quand même un rôle fondamental. Et c'est ceux qui peuvent moins bien le jouer. Le journalisme comme tel, justement, peut être menacé d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont préoccupés
de l'avenir des grands médias.
Du journalisme comme tel. Parce que là, c'est sûr qu'avec la multiplication des plateformes, multiplication de ci, multiplication de ça, et aussi avec la difficulté, par exemple, très souvent sur Internet, d'aller vérifier les sources de ce qui circule, de ce qui dit, bon, peu à peu, le journalisme comme tel peut être écorché.
Oui, je vois. Mais ça reste... Et dans les grands médias, vous incluez des émissions comme les dossiers, des choses comme ça, les émissions de télé. Ouais.
Puis l'information aussi qu'on voit dans les grands bulletins de nouvelles.
Oui, et donc ça peut nourrir notre esprit critique face à la société. Ça nous rend peut-être moins naïfs.
Mais des fois, peut-être que des fois aussi les gens deviennent peu à peu cyniques parce qu'il y a trop de mauvaises nouvelles, etc. C'est sûr, quand on est renseigné aussi sur ce qui se passe dans le monde, très souvent, bon, c'est sûr... C'est des événements que peut-être on n'aimerait pas entendre, mais par ailleurs, il y a des événements plus positifs. Bon, le printemps arabe, en général, on en parle d'une façon relativement positive.
Bien sûr.
Il y a des retournements qui se font dans l'histoire. C'est pas nécessairement les médias qui les créent, mais les véhicules, les circuits, les amplifient.
Ils en sont des vecteurs importants.
Quand il y a des grandes catastrophes aussi, c'est sûr que les gens, des fois, réagissent. Les gens avaient réagi avec beaucoup de générosité tremblement de terre en Haïti. Mais c'est un drame du monde. Faut aussi dire que les médias aussi nous sensibilisent à ce qui se passe dans le monde, non seulement ici, mais un peu à l'extérieur.
Mais en même temps, bon, je devrais pas commencer avec « mais » parce que je me fais servir une leçon sur l'importance des médias et je l'apprécie, oui, Louis.
Bien gentil, bien ouvert, mais, parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui doivent réagir un peu plus. Oui, ben, ils devraient parler peut-être d'autres aspects.
Pense
mais il y en a d'autres aspects aussi, c'est évident, ça n'enlève pas les dérapages, le travail vite fait, des choses comme celle-là. Mais moi, n'oubliez pas que j'ai parlé, au fond, j'insiste sur la nécessité, justement, des grands médias, dans le fond, parce que les autres suivent un petit peu dans ce
Oui, et des médias qui restent libres, hein, qui sont pas à la solde de tout un chacun, qui en fait ce qu'il veut. J'entendais à la radio de Radio-Canada quelque chose sur Berlusconi la semaine dernière, qui, donc en Italie, est propriétaire des trois plus grandes chaînes de télé du pays depuis 30 ans et de plusieurs grands journaux, et qui finalement met en scène dans sa télé, dans ses télé, dans ses journaux, un système de valeurs qui correspond à peu près au style de vie qu'il a, de sorte que les Italiens se scandalisent pas beaucoup de ses frasques à lui en tant que président, du fait qu'il s'intéresse à plein d'autres choses que son travail politique et entre autres ces choses étant des jeunes femmes. Il mène la vie qu'il veut, mais son pays est préparé à accueillir ça parce que c'est ce qu'il leur donne à la télé depuis 30 ans. Pensez-vous que c'est exagéré, cette analyse-là, que les médias peuvent avoir autant d'influence que ça?
Mais je pense pas qu'ici, en tout cas, qu'on en soit rendu là. Comme vous pouvez penser, là, je fais un rapprochement bien très, très, très prudent parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes hommes et M. Carl Bellado n'est pas au pouvoir d'aucune façon. Puis je pense pas, d'aucune façon, ni directement, ni indirectement, et je ne pense pas du tout qu'on peut faire des rapprochements avec Berlusconi. Sauf qu'effectivement, si cet homme-là ne s'est pas, à un moment donné, évolué d'une certaine façon, qui contrôle actuellement, au fond, le Journal de Québec et le Journal de Montréal, c'est plus que...
Et TVA.
Oui, mais vu ces deux journaux-là, je pense que c'est plus que 50% du tirage des 7 quotidiens qui appartiennent à GSK. et TVA, bien sûr, et 50 magazines dans le monde de la business et les imprimeries ici, oui. Et ça. Mais ça, ça se compare pas avec
ça
l'autre. Mais
ce que je veux dire,
ben, c'est sûr qu'il peut y avoir une influence sur le plan, cette synergie, plus le câble, tout ça, ça donne une certaine forme d'influence de plus en plus forte à M. Pelladeau. Mais on est bien loin. Je m'avance là-dessus, mais
évidemment.
Avec beaucoup de prudence, je pense que les gens ont du jugement, on est bien loin des exemples que vous avez donnés. Merci, ça n'a pas de comparaison. Mais disons, c'est quelqu'un, effectivement, on peut s'inquiéter sur certains aspects qui en contrôlent pas mal. Puis un autre aspect dont je voulais vous parler rapidement, c'est qu'on laissait entendre tout à l'heure que pour Internet, on peut faire diminuer le tirage des médias. Juste quelques chiffres, par exemple. Ces chiffres datent de 2008, c'est peut-être baissé un peu de quelques pourcentages depuis. Même, je pense, la presse, ils nous disent que leur tirage a augmenté. En tout cas, moi, j'y vais avec 2008, là. Alors, des tirages moyennes lundi au vendredi des journaux québécois. La presse, 200 000 exemplaires, 200 336 en semaine, 270 000 en fin de semaine. Le Journal de Montréal, 260 000 copies, tirages.
C'est du monde.
Par jour, 302 000 en fin de semaine, et pour votre information, Le Devoir, 26 000, je pense que c'est monté un peu, Le Devoir également. Voyez-vous, c'est des journaux dont le tirage monte. Je me souviens que Le Devoir récemment, je pense qu'on est peut-être à 29 000 et 42, 44 000 en fin de semaine. Ça donne un peu des ordres de grandeur. Mais ce que je veux dire, c'est regarder le tirage de la presse et du Journal de Montréal, les tirages sont encore énormes quand même.
Oui.
Et puis, d'ailleurs, souvent, ces journaux-là vont dire, ben, regardez, on dit que t'es en train de mourir, mais c'est quand même...
Et un journal imprimé, c'est plusieurs lecteurs, habituellement, ça circule un peu.
Ça, c'est des tirages, là.
Et c'est sans parler des revues de presse à la radio, qui font écho aux journaux et aux éditoriaux particulièrement. Donc, ça a de l'impact. En tout cas, ça veut dire qu'à l'ère de Twitter, des blogs, Facebook et compagnie, le journal imprimé, non seulement a encore sa place, mais est encore très important.
Ben, je pense que ça, il est important. Le format papier, peut-être, va disparaître dans certains, peut-être. Il y a des tendances qui se dessinent, effectivement, mais je pense que pour un bon bout de temps encore, on va avoir des copies papier des journaux et des magazines.
Et donc, ça vaut la peine qu'on y réfléchisse et qu'on se demande quelle place on leur fait et quel rôle ils assument dans la société. Louis Lesage, on va aborder un sujet qui n'est pas un mariage heureux la plupart du temps, les médias et la religion. On va l'aborder sous deux angles, si vous permettez, Louis. La place de la religion dans les grands médias d'abord, et aussi après, les médias religieux eux-mêmes, parce qu'il y en a et on gagnerait peut-être à les connaître davantage. Mais d'abord, le point plus litigieux, la place de la religion dans les médias. On est nombreux à être frustrés, à trouver que la couverture du fait religieux n'est pas très positive. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment?
Alors, je pense qu'on peut dire, parce qu'on parle des médias, que là, que cette émission-là, que notre entretien est enregistré le 20 septembre 2011, n'est-ce pas? Alors, j'ai devant moi la copie du Journal de Montréal du 20 septembre 2011. À la une du journal, un petit coin à gauche, un livre choc sur la sexualité des religieux. Et à la page 5, la chasteté est un mythe. Plus de 80% des prêtres et religieuses ont eu des écarts de conduite par rapport à leurs vœux. Et l'article décrit ces différents écarts de conduite-là. L'auteur dit qu'elle a même vu des prêtres et des religieuses s'embrasser. Puis elle parle même de scènes dont autant ne pas parler ici. En fait, plus assez scandaleuse. Mais voyez-vous, ça fait la une du Journal de Montréal d'aujourd'hui.
Ben oui, et qui sera surpris de ça?
C'est écrit, par exemple, par une religieuse, je pense,
Marie-Paul Ross. Marie-Paul Ross est religieuse.
Psychologue. Puis le Journal de Montréal, bien sûr, fait
sexologue.
Une belle grande page, une belle grande photo de Marie-Paul Ross. Bon, ceci dit, pour dire que l'article en soi, ou le livre en soi, bon, c'est possible que ça se produise, ces choses-là, mais... Le problème qu'il y a, comme vous savez très bien, dans les médias en général, c'est qu'on continue à ne parler, en général, que de la religion quand on parle de sexualité, de pédophilie. En fait, je ne pense pas que, par exemple, qu'on aurait eu le droit dans le Journal de Montréal à une entrevue ou dans la presse ou dans le Devoir à une entrevue avec Mgr Rouet qu'on a eu à un colloque
qui a
parlé comment, par exemple, les chrétiens réussissent à se réorganiser en France ou des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tellement, à mon avis, qu'on parle, on peut bien en parler des problèmes de sexualité, de pédophilie, puis ce qu'on voudra, mais c'est qu'on ne parle que de ça, ou presque.
Ouais.
Ou presque.
Le sensationnel, c'est
ou
ça.
Presque. Bon, ouais. Et ça, voyez-vous, dans un sens, là, ici, c'est sûr que ça, moi qui ai commencé cet entretien en parlant effectivement du rôle des médias et comment dans certains secteurs de la société, dans certains domaines, ils jouent un rôle important, en dénonçant parfois également ce qui ne va pas, mais au moins en décrivant aussi ce qui va. Mais en général, particulièrement, je dirais, en ce qui concerne le traitement fait à l'Église. Mais la question « Pourquoi en est-il ainsi? », ça, c'est autre chose. Et là, j'ai un autre petit tableau ici, voyez-vous. Le niveau d'intérêt pour différents sujets traités dans les médias. Ça, c'est des enquêtes faites par le Centre d'études des médias, qui est relié à l'Université Laval, je crois. Et là, on énumère, on score des sujets, et les gens choisissent, j'imagine, certains types de sujets qui les intéressent. Bon, ça part de l'automobile, l'opinion de la population, les vedettes internationales.
Les gens, c'est les lecteurs?
Les lecteurs,
c'est
ça, c'est des enquêtes.
Chez les lecteurs, d'accord.
Ce que je vois dans toutes les catégories qui intéressent les lecteurs, la religion comme telle n'est même pas mentionnée. En voyez-vous, elle n'est même pas mentionnée dans le choix. Les lecteurs.
Elle n'est pas dans le choix de réponse à faire. C'est pas
d'après
eux qui ont décidé.
Vois, okay. Ou peut-être qu'ils ont décidé après. Ça, il faudrait que je baille un peu plus. De toute façon, ce n'est pas là. Autrement dit, on considère que ça n'intéresse pas les gens. Donc, ça n'intéresse pas les gens, on n'en parle pas. Puis si on n'en parle pas, ça n'intéressera jamais les gens. On est placé devant... Ceci dit, je ne dirais pas que c'est une catastrophe. Je ne dirais pas que ça ne peut pas changer. Je ne dirais pas que ce n'est pas des efforts de temps en temps. Je sais qu'à la presse, par exemple, il y a Mathieu Perrault qui fait des papiers de temps en temps. Au Devoir, il y a une seule chronique. Il n'y a pratiquement rien de couvert de ce qui se passe dans l'Église. De sorte qu'on a l'impression que l'Église, surtout l'Église catholique ou ce qui en reste, on va en parler bien sûr quand les Églises se sont vides, on répète ça quand elles sont vendues.
Ou quand il y a un événement, il y a eu le frère André, a été couvert.
C'est sûr qu'on parle de choses comme
autrement,
ça. Mais à peine, comme le voyage du pape à Madrid, je ne pense pas qu'on en ait parlé beaucoup.
Et même avec un bon journaliste comme Jean-Claude Leclerc, il n'y avait pas un espace énorme pour lui.
Mais Jean-Claude, il fait une chronique. Il fait une chronique intéressante. Il choisit un sujet, il choisit un domaine, et puis il fait sa chronique chaque semaine. Puis parfois aussi, il y a dans cette page-là un peu d'information religieuse. Dans Le Devoir, effectivement, on peut accorder ça. On peut dire qu'il y a aussi, évidemment, là, je parle des médias qui font de l'information religieuse. Il y a aussi, bien sûr, Second Regard, qui à Radio-Canada continue de décrire quand même l'évolution du religieux dans notre société. Et le fait très bien aussi. Il regarde aussi les différentes tendances, comment ça évolue, tout ça. Ça, c'est quand même une émission à souligner. Puis il y a aussi l'émission du dimanche, que malheureusement, je connais moins, là, l'émission du dimanche matin. Là.
Le jour du Seigneur.
Le jour du Seigneur.
Avec une liturgie.
Puis Radio Ville-Marie. Puis là, on parle déjà des médias religieux en soi. Au fond, ce qu'on devait surtout parler, c'est le contraire. On devait parler de la place...
De la religion dans les grands médias. Ouais. Je ne sais pas si vous partagez un préjugé, en tout cas, que je connais comme étant répandu. Au Québec particulièrement, les journalistes n'ont pas encore fini de régler leur compte avec une certaine église de l'époque du Plessiste.
C'est-à-dire qu'il paraît qu'il y a deux catégories.
Ça joue.
Il paraît qu'il y a deux catégories de journalistes. J'écoutais la rédactrice en chef ou la directrice de la revue Actualité, là, Carole Beaulieu. Et c'est qu'il y a deux types de journalistes, grosso modo. Il y a ceux qui, justement, comme vous, n'ont pas encore vidé leur contentieux avec la religion catholique.
Pas comme moi, comme ceux dont je parle.
C'est vrai. Excuse. Alors, comme ceux dont vous parlez, qui n'ont pas réglé encore leur contentieux et qui sont aussi, je crois que c'est quand même relativement une minorité, mais assez agressif et qui, ça c'est fini, puis on n'en parle plus, puis au-dehors de tout ça.
Ouais.
Et puis il y a ceux qui ne savent absolument rien, qui ne connaissent absolument rien de la religion, de la foi, de la pratique religieuse, et qui ne sont pas nécessairement
négatifs ou agressifs, mais qui n'y connaissent rien.
Pourquoi c'est comme ça? Enfin, j'ai pas d'analyse tout à fait nouvelle. Il y a des raisons à la fois effectivement sociologiques, à cause de notre contexte historique. Dans un sens, je pense qu'on parle plus des, musulmans, par exemple, qu'on va parler sur le cours d'une année, qu'on va parler de ce qui se passe dans l'Église chez les chrétiens et les catholiques.
Oui, c'est ce que je me posais comme question. On en parle.
En tout cas, on fait un reportage. Chaque année, il y a des reportages sur le ramadan. Il y en a relativement peu sur le carême. Puis pourtant, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas plus ce qu'est le carême. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de catholiques qui font le carême que de musulmans qui font le ramadan.
Maintenant, peut-être,
qui font le ramadan, sûrement.
Mais
enfin,
ça veut dire
ce qu'on prend.
Ça veut dire, à ce moment-là, ça voudrait dire que peut-être la couverture religieuse n'est pas aussi... agressive lorsqu'il s'agit d'autres religions et que ça confirmerait qu'il y a une sorte de compte à régler avec l'Église catholique au Québec.
Ouais, mais moi, j'ai l'impression qu'on est placé devant une situation où c'est parce qu'il se fait peu... Il y a des choses intéressantes, je pense, qui se passent ou dans l'Église, ou chez les chrétiens, ou sur le plan religieux. Mais on... Je sais pas,
on n'arrive pas à amener ça
jusqu'aux
médias, peut-être.
On n'arrive pas à l'amener jusqu'aux médias. Ouais. Peut-être que du côté même des...
Il n'y a pas beaucoup de... Vous me disiez, la semaine dernière, je pense, on n'a pas beaucoup de groupes qui prennent la parole, qui prennent une parole publique, qui font des déclarations.
Il y a peut-être ça aussi, le fait que peut-être des chrétiens, d'abord eux-mêmes, que ce soit des chrétiens... dans les instances hiérarchiques de l'Église, ne parlent pas beaucoup parce que quand ils parlent, ils occupent du terrain. On se souvient tous du passage pendant 8 ans du cardinal Ouellet à Québec. Il a quand même parlé, il a eu du terrain, il a pu dire ce qu'il voulait dire, il a été invité dans les émissions, il parlait. Peut-être que beaucoup d'autres évêques, et non seulement les évêques, je peux écrire les chrétiens, tout ce que nous
mais
sommes,
ça donne
peut-être,
à penser.
Sont trop timorés, ont trop peur. Je pense que c'est pas nécessairement l'absence de couverture des médias séculiers, du phénomène religieux, des manifestations de l'Église. C'est peut-être aussi parce qu'il y a un silence relatif de la part des gens qui n'osent plus ou qui ne font pas assez d'initiatives qui pourraient être intéressantes, je ne sais pas. Et là, peut-être qu'on est renvoyé même au monde des médias religieux eux-mêmes.
Mais même avant de venir aux médias religieux, c'est vrai que finalement, on n'occupe pas beaucoup le terrain. Vous avez raison, il a été couvert, le cardinal Ouellet, par les médias, et pas toujours positivement, mais pas toujours négativement, souvent de façon assez neutre sur ses déclarations.
Oui.
Et à ce moment-là...
Le cardinal Turcotte aussi, quand même, un peu avant, a eu à un moment donné un bon moment aussi avec les médias. On l'a trouvé régulièrement à différentes émissions. Il y avait un style bien différent, bien moins fracassant. Mais là, voyez-vous, on parle de l'Église, on parle uniquement des... Ben, c'est un peu comme ça en politique aussi, on parle des
dirigeants
ou des dirigeants.
Ouais.
C'est possible aussi qu'à un autre niveau...
S'il y avait autre chose, il y a des lettres de lecteurs qui sont publiées et qui sont parfois des lettres écrites par quelqu'un qui dit « moi, comme chrétien, je trouve que... » mais assez peu. Et peut-être que vous avez raison, ce qui manque, c'est des groupes qui prennent la parole, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas juste des individus en autorité, mais...
Sur les enjeux
des groupes de pression,
sociaux, sur des questions éthiques, questions morales, peut-être que les gens sont...
Oui,
on soulève une question, j'avoue que je remarque comme tout le monde que on a l'impression qu'il n'est pas assez fait justice à ce qui se fait ici et là, mais en même temps, peut-être qu'il ne s'élève pas, que c'est pas...
Mais il y a des déclarations sociales, par exemple, publiées à chaque année par l'épiscopat.
Oui.
Est-ce que c'est couvert, ça, par les médias?
Pas beaucoup, je crois,
pas
maintenant,
beaucoup, hein?
Non.
Ça l'a été quand ça avait une petite orientation un peu marxiste, là, dans les années 70-80.
Effectivement, ce n'est pas... je ne pense pas qu'on rende justice véritablement ça, mais là, il faudrait voir aussi, il y a bien des... Parce qu'en soulevant ça, on pense aussi de la façon dont c'est rendu, dont c'est communiqué, de la façon dont on veut le rendre public. Enfin, il y a bien des questions.
Puis peut-être que ce n'est pas non plus très diffusé dans les médias religieux. Venons-en donc aux médias religieux comme tels. Donc, c'est la mission de parler du religieux et entre autres de l'Église, si on parle de médias intra-ecclésiaux. C'est quoi ça, des médias religieux, bon, à part Radio Ville-Marie, là?
Ben, dans le fond, si on regarde actuellement ce qui se passe dans ces médias-là, bon, il y a Radio Ville-Marie qui, quand même, accorde de l'espace aux questions religieuses, aux questions de l'Institut pastoral,
aux questions sociales,
le fils de la catéchèse,
et politique.
Ensuite, évidemment, c'est une radio qui est aussi culturelle, assez ouverte sur la culture. On n'en parlera pas beaucoup parce que ceux qui nous écoutent l'écoutent, mais ils la connaissent, donc c'est de l'écoute.
Ouais.
Puis il y a aussi, comme je parlais, bon, cette émission de Radio-Canada, mais si on regarde plus spécifiquement actuellement le monde de... Il y a les magazines, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de magazines, il y a aussi la presse diocésaine. Dans les magazines catholiques, qui font partie de l'ACPC, Association canadienne des périodiques catholiques. Bon, il y a à peu près 64-65 magazines. La plupart d'entre eux sont rattachés à des communautés religieuses ou encore à l'Oratoire Saint-Joseph.
Comme Relations, c'est les jésuites.
Il y en a beaucoup qui relèvent plus directement de communautés comme telles.
Qui sont administrées directement.
Et puis il y a aussi une autre presse qui, elle, relève plutôt des diocèses. Et ce sont tous des publications qui, effectivement, ont un lien tel à leur institution ou alors qu'elles peuvent pas véritablement développer une approche très, très critique, très journalistique des questions, mais qui quand même, je pense, beaucoup se veulent de plus en plus attrayantes, font un travail intéressant, renouvellent leurs maquettes, en fait, font des choses comme celle-là, ils vont faire des entrevues, c'est gentil, c'est bien fait, mais je pense pas qu'ils puissent véritablement développer une forme de journaliste dont on aurait véritablement besoin dans l'Église. Mais là, encore là, c'est des questions bien complexes et je pense que ça va venir avec le temps, sans doute.
Oui, c'est sûr que les magazines comme Relations ou Présence, en tout cas, pour moi, ne sont pas du même ordre que les journaux diocésains. Hein, parce qu'il y a de l'analyse. Dans la revue Relations, il y a de l'analyse. Il y a de la contestation aussi, parfois. Dans Présence, ça creuse des questions. Ça s'en tient pas aux petites questions sur lesquelles tout le monde est d'accord. Il y a des débats. Dans la presse diocésaine, je sais pas ce que vous voyez, vous, mais...
Tout ce que je sais, c'est que c'est une presse qui essaie de rendre compte de ce qui se fait, de ce qui se dit dans le diocèse, des bonnes initiatives. Je pense qu'elle est utile. Ben, c'est comme toute presse rattachée, tous les médias rattachés en quelque sorte à des institutions. Je pense qu'ils font correctement leur travail.
C'est-à-dire qu'ils doivent refléter des médias rattachés à l'institution, c'est ça, là.
La marge de liberté est relativement réduite.
Comme une publication gouvernementale. Mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas ça que vous appelez du vrai journalisme.
Ben, c'est-à-dire que moi, on touche à un sujet dont je le trouve difficile à réaliser, c'est-à-dire je le trouve difficile à traiter, parce qu'on est tous, vous savez, si on regarde les journaux, un petit peu en dehors du Québec, des journaux comme La Croix, par exemple, un journal comme La Croix, mais un journal comme La Croix, c'est un journal qui a plus qu'une centaine d'années d'existence, c'est un journal qui est rattaché à un groupe de presse assez fort qui s'appelle Bayard.
C'est en France.
C'est en France, oui. Et puis, malgré qu'ici, La Croix a des liens avec Novalis qui publie...
Oui, et il est accessible aussi sur Internet.
Il est accessible sur Internet et même il est accessible dans plusieurs endroits de points de presse.
Alors, ça vous paraît un bon exemple de journalisme?
C'est parce que c'est un journal qui fait du véritable journalisme. Mais là, vous savez, on revient à des questions financières, des questions de coûts, des questions économiques. Est-ce que c'est possible ici, dans notre milieu actuellement, avec la crise que traverse, faut bien dire, aussi nos institutions religieuses, la pratique est basse, est-ce que c'est possible de développer une véritable forme de journalisme indépendant qui fonctionne selon les règles de base du journaliste, aller cueillir les faits, les chercher, les analyser. Je veux dire, c'est ça qu'on fait pas. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, je sais pas moi, récemment, il y a deux nouveaux évêques qui ont été nommés à Montréal. Il y en a d'autres qu'on pensait qu'ils auraient pu être nommés, qui ne l'ont pas été. Mais si vous allez sur les sites d'information diocésaine, c'est bien normal. On va vous dire, bon, soyons heureux, il y a deux nouveaux évêques qui ont été nommés. Mais pourquoi eux? Pourquoi pas d'autres? Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Il n'y a pas... Ce que je veux dire, quand je parle de journalisme, c'est qu'il n'y a pas cette forme d'intérêt qui s'est développée dans les journaux, dans les médias religieux pour cette espèce de tout simplement d'approche de voir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça.
Une analyse, les enjeux, les tendances.
Bon, les tendances, il n'y a pas de choses comme ça qui se font.
Ça ne s'écrit pas. Ça se discute, on l'entend, on discute
nous-mêmes. Ça veut dire qu'on l'entend dans les officines, on l'entend les gens qui sont au courant, mais il n'y a pas assez de matériel pour faire créer une véritable opinion publique. Il y a des gens, par exemple, dans une certaine gauche catholique qui se manifeste aussi, qui s'exprime ici et là dans différents groupes, tout ça, bon, on reste un peu entre nous, puis ça ne sort pas, il n'y a pas d'endroit...
C'est pas publié, ça, c'est
pas... d'endroit, mais ça, voyez-vous, on touche une question qui est assez complexe. Je ne condamne pas personne parce que je me sens un peu moi-même démuni, et par rapport à cet état-là, et par rapport à ce que je fais pour essayer Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Entre autres choses, on a parlé de la CPC, l'Association canadienne des périodiques catholiques. Je pense que cette association-là, elle a un blog qui est tenu par, et là, par François Gloutenay.
Ah oui.
Et ça, je pense que ceux qui veulent, justement, pour être un peu plus positif, ceux qui veulent voir un petit peu ce qui se fait, d'informe, pas positif, mais factuel, ce qui se fait dans l'information catholique.
Dans les périodiques.
Dans les périodiques.
Oui.
Et chaque jour, il y a des nouvelles concernant les périodiques. Et nécessairement, je ne l'ai pas consulté aujourd'hui, mais j'aurais pu donner quelques exemples. Et donc, nécessairement, regardant un peu ces périodiques-là, qui comprennent justement soit les revues, les magazines, les bulletins diocésains, bon, on apprend un petit peu ce qui se fait forcément dans l'Église. Et il y a aussi Radio Ville-Marie quand même, qui a un blog ou une forme de pas de newsletter, mais enfin d'envoi de courriel,
oui,
dans lequel aussi il y a quand même de l'information,
oui,
qui commence à apparaître sur ce qui se passe dans certains diocèses, sur ce qui se passe ici et là. Il y a des choses qui se grillent, il faut quand même le dire. Et puis, Radio Ville-Marie, quand même, bon, le matin, il y a quand même d'informations qui se donnent à l'émission du matin. Il y a des petites choses qui se font, mais pas assez pour créer, je dirais, une véritable opinion publique informée dans l'Église.
Ça.
Et là, on revient au point de départ de cet entretien-là, quand je disais que l'Église encourage beaucoup le développement d'une presse libre dans la société. Mais à l'intérieur de l'Église, ou dans l'Église actuellement, ou des gens qui observent la vie de l'Église, ça n'intéresse peut-être pas assez les médias séculiers pour faire comme ils le faisaient auparavant, qui suivaient un peu ce qui se passait dans l'Église. Il y a eu un âge d'or dans l'information religieuse, donc ça n'intéresse pas assez ces médias-là pour faire quelque chose. Puis les médias religieux sont un peu paralysés par leur lien avec
l'institution,
qui les
on pourrait dire.
Finalement, ils n'oseront pas aborder franchement des questions. Je ne sais pas, évidemment, là, on pourra me dire que c'est toujours les mêmes questions, mais quand même, elles sont importantes. La place de la femme dans
l'Église.
Dans l'Église.
On juste faire état
même
des réticences de l'opinion publique.
On ne pourra même pas vraiment discuter.
C'est ça.
Non, c'est un peu ça.
Et donc, on essaie un peu
de. Mais ça peut se parler à Radio Ville-Marie, je crois, par exemple.
Ben là,
ça peut. Non, mais
essaie,
on pourrait y avoir des ça ici, mais dans l'ensemble des autres médias, non.
Est-ce que vous pensez, vous êtes un journaliste de carrière, est-ce que vous pensez que s'il y avait un journalisme plus critique dans l'Église, ou même si les débats étaient plus ouverts, les débats qu'on a entre nous, les dissensions, si elles s'exprimaient publiquement, ça pourrait intéresser les médias, de sorte qu'il y aurait là, dans les grands médias non religieux, un reflet plus intéressant d'une Église qui est capable elle-même de mettre ses grands débats en plein jour. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Non, je comprends.
Et puis, on aurait peut-être autre chose que du sexe puis des nominations d'évêques dans les journaux. On aurait peut-être autre chose, des débats d'idées.
Oui. Ben, je pense qu'il y a sûrement quelque chose à faire pour être plus, peut-être plus intéressant entre nous, si on peut parler comme ça, pour discuter des vraies questions, pour organiser des débats, pour organiser des discussions. Il y a ici et là des choses qui se font, qui peuvent continuer à se faire. Effectivement, c'est important, mais comme je dis, pas parce que j'ai peur de jeter de la pierre, mais parce que je vois que c'est quand même c'est assez complexe. C'est-à-dire que on a quand même une Église qui a été malmenée beaucoup. Ben, c'est-à-dire, d'abord, qui a contrôlé, on le sait, pendant un bon temps. Puis après ça, elle a été relativement malmenée. Les communautés religieuses sont toutes plus ou moins en voie de sauf quelques-unes. Alors, c'est sûr que l'Église est à refaire. Elle tenait sur ça, faut bien le dire. Peut-être que les laïcs commencent à redécouvrir leur place et commencent quand même, eux-mêmes, commencent peut-être à d'abord s'impliquer de plus en plus dans les paroisses, ce qu'ils ne faisaient pas. Comme on a eu récemment un colloque ici à l'Institut pastoral, en fait, chez les Dominicains, organisé par le Centre culturel, où on voyait que dans des, je sais pas moi, à Trois-Rivières, ou je sais pas, il y a 700 ou 800 laïcs, membres d'une paroisse, qui s'achètent des bibles, qui commencent à la lire. Puis,
ouais.
Je veux dire, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un renouveau. Peut-être que le renouveau doit se faire comme ça, mais c'est bien normal qu'à un moment donné, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, que les gens s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société, et que même les grands médias ou les journalistes aussi, qui sont demeurés agressifs, ou ceux qui ne connaissent rien, s'aperçoivent qu'il y a une réalité vivante, culturel, social, qui est en mouvement ou chez nous, et c'est effectivement un certain réveil de l'Église. Mais ça, je pense que pour ça, il faut que l'action se manifeste à plusieurs plans. Peut-être que sur la place publique, il y a des gens qui commencent à parler, qu'il y a des gens qui commencent à écrire, qu'il y a des gens qui réagissent. Il faut qu'il y ait des débats d'idées. Et puis, idéalement, je pense qu'effectivement, si on avait un type de publication, parce que moi, des fois, je me dis, il y a 64 publications. Je ne sais pas comment ces 64 publications-là ont chacune des abonnés, mais supposons qu'elles ont chacun 500 abonnés, c'est pas beaucoup, là. Ça fait quand même 30 ou 40 000 lecteurs. J'ai l'impression que il faudrait peut-être penser, ça fait longtemps que je pense un peu à ça d'ailleurs, avoir une forme de publication qui soit de type journalistique, capable de rallier, de ranimer, de montrer un peu tout ce qu'il y a dans cette église-là, comment aussi il y a des gens qui commencent à se poser des questions, puis il y a des gens qui vivent, puis il y a des gens qui sont engagés. Et c'est ça qui demeure enfoui quelque part et qu'on ne réussit pas à mettre sur la place publique, mais peut-être parce que c'est d'abord nous qui devons...
Je m'assume
dans ce mouvement, qui devons le mettre sur la place publique. Et là, s'il y a des choses intéressantes qui se passent, je pense que les médias vont faire leur travail, ils vont venir voir ce qui se passe. C'est pour ça que je ne jette pas systématiquement la pierre aux grands médias de ne s'intéresser qu'à la pédophilie, parce que ce sont des sujets qu'on enfouit aussi. Hein? Je veux dire qu'on enfouit. Et si ces médias-là, les médias séculiers, ne l'avaient pas sorti, ça n'aurait jamais sorti. Il faut aussi se dire ça aussi, hein? Que je veux dire, l'Église se protège beaucoup sur ce plan-là. Et c'est demeuré des cacheteries bien longtemps.
Je ramasserais ça peut-être, en tout cas dans mes mots à moi, ça veut dire si l'Église, comme groupe, acceptait de mettre sur la place publique ces débats et donnait leur juste en termes d'information sur elle-même, c'est une information que les grands médias couvriraient.
Je pense que si le milieu devient plus vivant, et quand je dis l'Église, j'inclus nos autorités, mais je nous inclus aussi, cher Francis. Je pense qu'il y en a tous un travail à faire sur ce plan-là.
Mon cher Louis, vous allez donner un cours à l'Institut de pastoral. On n'a pas vidé la question, c'est sûr. C'est un cours de 30 heures que vous allez donner. Vous ne viderez pas la question non plus, mais vous allez sûrement pouvoir la creuser un peu plus que dans le cadre de mon émission. Qu'est-ce que vous allez aborder?
Je pense que vous m'avez donné l'occasion d'aborder peut-être les grands thèmes de ce cours, de cette réflexion. On a commencé notre entretien en parlant de la pensée de l'Église. Je pense qu'il y a quand même des éléments très stimulants dans certains textes, comme je mentionnais surtout Gaudium et Spes, qui méritent d'être réfléchis. Et il y a aussi la façon dont l'Église elle-même a développé ses stratégies médiatiques. Ça, c'est un point. Mais d'autre part, quand on parlait également de la place du religieux dans les médias, on a dit observer certaines choses, mais ceci, ça peut également s'observer d'une façon un peu plus systématique. Puis il y a aussi, comme je parlais, les magazines catholiques, il y a aussi la presse diocésaine. C'est des questions complexes, une forme de journaliste dont on aurait besoin dans l'Église.
Je le signale, donc pour les gens, nos cours sont toujours ouverts aux auditeurs libres. Louis Lesage, merci d'avoir pris le temps de nous parler d'un dossier aussi épineux. Merci d'en avoir fait le tour de cette manière-là, puis de nous laisser avec plus de questions que de réponses sur certains points, en tout cas. Ça nous rend à notre responsabilité aussi, ce qui n'est pas rien. Merci beaucoup, Louis.
Merci beaucoup, Francine. Ça a été très agréable d'être avec vous.
Tout le plaisir a été pour moi, Louis. Merci beaucoup. Grand merci à Louis Lesage qui nous a fait profiter de façon aussi intéressante de ses compétences et de son expérience des grands médias. Au microphone, c'est Francine Robert. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission de la série Croire d'hier à demain, produite pour Radio Ville-Marie par l'équipe de l'Institut de pastoral des Dominicains. Je vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie.